Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Claude Chaffiot, qui est le directeur général d'Accenture Interactive. On s'est rencontrés à Southwest.
Ouais, à Austin. Ouais.
À Austin, il y a un petit moment. Et on a une discussion intéressante suite à la publication du podcast d'Antoine Paps sur la transformation des agences. Antoine qui disait justement que les boîtes de conseil, en particulier Accenture, arrivaient en concurrence avec maintenant les agences de com et qu'elles parlaient au directeur marketing, qui a une nouvelle posture pour une boîte de conseil comme Accenture. Et en fait, j'avais envie de discuter avec toi de ce mouvement, c'est-à-dire comment une boîte de conseil passe de son métier à celui-là qui concerne plus la com ou en tout cas le marketing. Ça, mais aussi, qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que vous êtes vraiment opérationnel comme une agence peut le faire? Parce qu'une agence, l'avantage, c'est qu'effectivement, elle a tendance à partir du concept, mais aussi à créer le produit et aller jusqu'au bout, jusqu'à la pub, etc. Donc voilà, je voulais savoir comment vous vous positionnez et comment s'était fait ce mouvement, en fait.
C'est une bonne série de questions. On se positionne, nous, comme étant une entreprise qui aidons nos clients, nos partenaires, à se développer, à affronter aujourd'hui et à envisager sereinement demain. Donc... quand on regarde le Standard & Poor's 500, en l'an 2000, il y avait donc 500 entreprises. Mmh. Aujourd'hui, il y en a plus de la moitié qui ont disparu. Donc, être performant aujourd'hui et préparer demain, c'est vraiment important. Depuis l'an 2000, depuis l'avènement d'Internet, on parle de transformation digitale. Mmh. Et la transformation digitale, c'est bien plus large que la com. C'est comment le digital va impacter le business de nos clients. Donc, à ce titre, on s'est intéressé au digital. Et aux différentes composantes du digital. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le directeur marketing est perçu par un bon nombre de CEO comme devant être dans l'entreprise l'acteur de la transformation digitale et finalement l'acteur de la relation client. Il y a quatre piliers dans la transformation digitale. Il y a un pilier direction générale, vision, plan, action. Il y a un pilier qui est plus centré sur la production. Mmh. Il y a un pilier qui est plus centré sur la culture de l'entreprise. Et puis au milieu, il y a un pilier qui est la relation client, l'expérience que l'on veut offrir.
Et tu penses que c'est juste que le directeur marketing soit au centre de cette transformation digitale? Est-ce que ça ne devrait pas être plus, par exemple, le directeur technique, enfin le CTO, ou quelqu'un qui s'occuperait de la data, par exemple, ou,
Chacun a un rôle, en fait. C'est difficile de confier la transformation digitale à quelqu'un. Alors, théoriquement, ça devrait être le CDO, hein, Chief ouais. Digital Officer.
Mais qui est pour moi un directeur de l'accélération digitale. Ce n'est pas vraiment un directeur du digital.
Ouais, moi, je revisitais l'acronyme de CDO en disant chef d'orchestre, en fait. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça ce qui est intéressant aujourd'hui. Alors, ils sont positionnés, quand on regarde la définition, et plus au-delà de la définition du rôle des CDO dans les entreprises, ils ont des rôles qui sont extrêmement différents. Mmh. De façon intéressante, on a fait une étude sur les 100 premières entreprises françaises. Il y en a 85 qui ont fixé le digital dans leur plan de croissance, comme un vecteur de leur croissance. Il y en a simplement 26% d'entre elles, des 85, qui ont un budget dédié à la transformation digitale. donc un budget transversal dédié à la transformation digitale. Ah ouais. Ça ne veut pas dire que...
qu'il est conséquent.
Ça, c'est sûr. Mais à l'inverse, ça ne veut pas dire non plus qu'elles ne vont pas investir en communication digitale, en pluguant du digital dans la transformation culturelle. Mmh. Mais il n'y a pas un budget transversal, central, qui fait avancer l'entreprise. Enfin, il y a ça dans 26% de 85 entreprises.
Un quart.
Ce qui fait donc un peu moins d'un quart, ouais.
Et alors, du coup, c'est quoi ta vision aujourd'hui de la transformation digitale dans les boîtes ? Enfin, moi, j'aime pas, j'avais déjà dit ça à Patrick, mais je suis pas un grand fan du terme transformation digitale. Pour moi, c'est pas forcément une transformation digitale, c'est plutôt une transformation sociétale dans laquelle le digital joue un rôle. Et du coup, voilà, mais peu importe. C'est quoi ta vision ? Comment tu envisages le métier aujourd'hui ? C'est quoi les plus gros challenges ?
Et aujourd'hui, la transformation digitale, elle est à l'agenda de toutes les sociétés. Cela dit, elle est extrêmement différente en fonction du secteur dans lequel tu es. Mm. Donc, elle doit finalement être cohérente avec ce que la société est. Mm-hmm. Donc, ça doit être à un moment l'expression. Si on prend un domaine bancaire, par exemple, on voit bien qu'il y a des banques qui ont des promesses qui sont, et des origines qui sont extrêmement différentes. Donc c'est intéressant de se dire comment est-ce que le digital va m'aider aujourd'hui à être cohérent avec ma promesse. Si j'ai une promesse de service extrêmement proche, ou au contraire d'international, ou au contraire d'entreprise, ou au contraire de performance et d'économie, enfin, c'est très différent. Donc on va pouvoir travailler sur ces registres-là. Donc déjà... une première chose, c'est de se dire, OK, la transformation digitale est nécessaire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Et moi, je me place, on peut aller beaucoup plus profondément sur... je me place du côté agence, hein, donc je me place juste sur la partie aujourd'hui qui est celle du marketing et de l'interface client. Et puis ensuite, il faut s'apercevoir que les clients aujourd'hui, il faut le réaliser, ont ce que nous on va appeler des « liquid expectations », c'est-à-dire que... Ils aiment que tout soit simple, rapide, sans point de friction. Et finalement, on parle d'Amazon ou d'Uber, mais ce sont eux qui définissent nos attentes.
Ils ont mal habitué les consommateurs.
Ils les ont en tout cas fait évoluer. Et c'est vrai qu'on a tous constaté la simplicité de commander un Uber. Mm-hmm. On pourrait parler à un constructeur automobile, par exemple, et lui dire, tiens, si Uber investissait votre métier... Et s'il proposait un test drive, est-ce que vraiment vous pensez qu'il me proposerait d'aller à Vélizy un samedi matin pour essayer une voiture ? Ou est-ce qu'en te rejoignant, on ne m'aurait pas proposé de venir du 13e arrondissement, de me prendre dans la voiture que je veux essayer et de m'accompagner ici, en tout cas de me la laisser conduire ? Je n'aurais pas perdu de temps parce que j'ai fait ce trajet et ça aurait été probablement beaucoup plus fluide au travers d'une app. C'est un petit exemple, mais tout aujourd'hui doit être à ce niveau-là et les attentes sont là. J'aime bien la citation, le quote, c'est à peu près un an du patron d'AXA, Thomas Buberl, qui disait « Moi, je veux que mon benchmark aujourd'hui, ce soit Amazon, pour deux raisons. Parce que d'abord, ils ont fixé le standard de l'expérience client, et quand je veux que ce soit aussi simple de faire des transactions avec AXA qu'avec Amazon. Mmh. Et puis deuxièmement, s'ils se mettent à faire de l'assurance... ça va être un concurrent redoutable et on sait exactement comment ils le feront. Mmh. Donc, pour éviter de prêter le flanc, pour éviter d'être une proie, ou en tout cas pour éviter qu'Amazon se dise « Tiens, on pourrait faire un malheur sur le marché de l'assurance », on va mettre l'expérience client à ce niveau-là.
Et du coup, pour toi, c'était une question que j'avais juste avant, mais du coup, tu réponds quasiment. C'est quoi pour toi les entreprises qui sont en avance en France sur le sujet ? Donc, AXA, apparemment ?
Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives... diverses et variées. Et tu le disais à un moment, je crois tout à l'heure, on est quand même dans une phase de transition. L'une des difficultés qu'ont les entreprises aujourd'hui, c'est de véritablement mettre en marche cette transformation, puisqu'il y a des enjeux internes et d'organisation qui sont extrêmement compliqués. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de POC ou de MVP, donc de Proof of Concept ou de Minimal Viable Product, qui fleurissent ça et là au gré des initiatives. Ce qui est important, c'est d'arriver à aligner tout ça. C'est d'avoir une vision claire, c'est de définir des POC qui sont cohérents avec cette vision et c'est ensuite être capable d'arriver à de la généralisation, on va dire scalability en anglais, de la généralisation pour que véritablement ce soit des facteurs de transformation du business. Je pense que notre meilleur exemple, c'est le partenariat qu'on signe avec Engie. je refais de la pub, tu me pardonneras, mais où Isabelle Cochère, lorsqu'elle prend les rênes de l'entreprise, se fixe quelques priorités, l'une par rapport au développement durable en tant qu'énergéticienne, et l'autre par rapport à la transformation digitale de son entreprise. Et tout ce qu'on va amener à Engie et aux clients d'Engie est cohérent avec cette vision-là. Et ça, je trouve que c'est une entreprise qui est remarquable, parce que Isabelle Cochère a une direction qui est extrêmement claire, un projet qui est extrêmement clair pour justement rester un des grands groupes de l'énergie de demain, et potentiellement, avec cette promesse de se tourner vers quelque chose qui est plus green, plus raisonnable, il y a des tas de nouveaux métiers qui peuvent s'ouvrir quand on est un énergéticien, avec les smart cities, avec de l'IoT. On peut faire beaucoup d'autres choses que de continuer efficacement à fournir du gaz et de l'électricité.
C'est clair. Et alors du coup, pour toi, est-ce que tu as des hacks ou des solutions ou des points d'attention pour éviter de se planter dans sa transfo digitale ? Parce qu'en fait, effectivement, tu le dis, c'est à l'agenda de 100% des boîtes. Tu as 100% des comités de direction qui sont partis dans la Silicon Valley voir et Facebook et Google et Dropbox et peu importe. Maintenant, et tu le disais aussi, c'est un quart des boîtes qui ont mis un vrai budget dans la transfo digitale. Ouais. Donc en fait, il y a quand même des... Enfin, entre dire c'est important, oui, certes, et puis le faire, par exemple, chez AXA, tu prenais l'exemple d'AXA, moi je sais qu'ils ont embauché beaucoup de gros experts, et en fait, ils n'étaient pas prêts, du coup, les experts se sont ennuyés, ils sont partis. Donc, ça, c'est pour moi une des erreurs qu'on peut faire quand on fait de la transfo digitale, c'est de vouloir aller trop vite, de prendre des experts, de les laisser là, puis bon, en fait, ils s'ennuient, et du coup, il y a plein de boîtes pour qui c'est arrivé.
Bah. Oui, ça ne peut pas être qu'une intention. Et la transformation digitale, elle ne se fait pas, encore une fois, avec une succession de POC et quelques briefs qui sont émis par quelques personnes, quel que soit leur talent, dans un coin. Il y a une entreprise dont je peux parler, en faisant peut-être un petit peu publicité, puisque c'est Accenture, sous la direction de Pierre Nanterme. Le président d'Accenture Monde, il a décidé d'investir plus de 3 milliards par an pour la transformation d'Accenture. Et pour continuer à être percutant, performant, 3 milliards par an, c'est quand même considérable.
C'est considérable.
Tant en termes d'acquisition, que de recherche et de développement, que de formation de nos équipes pour qu'on soit performant. Je citais tout à l'heure Engie, c'est une société qui, c'est public, va déclarer investir quasiment 1 milliard dans sa transformation. Et c'est une décision stratégique qui descend. Donc ça ne peut pas être fait comme ça. C'est une vraie décision stratégique. Je parlais tout à l'heure des quatre piliers de la transformation digitale. Au niveau de la direction générale, donc la vision, le plan et l'exécution de ce plan, tout le monde a la vision à peu près. En tout cas, tout le monde, je le disais, a intégré que le digital devait être dans la vision.
Ça, c'est sûr.
Le plan, bon, il est souvent existant. La mise en œuvre d'un plan, mais très fondamental, ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que ça remet en cause la façon de fonctionner, les rapports entre les gens. On est quand même dans une contrainte économique très, très forte. Donc, on n'a pas d'argent pour investir. Les boîtes n'ont pas beaucoup d'argent pour investir. Donc, ça nécessite un travail double, que je citais tout à l'heure aussi, mais qui est bien d'optimiser le business d'aujourd'hui pour arriver à dégager de l'argent, des capitaux, pour investir.
C'est peut-être aussi arrêter de faire de la pub pour prendre cet argent-là. Mais ça pénalise le business d'aujourd'hui.
Arrêter de faire la pub.
Arrêter de faire de la pub, mais réduire les investissements publics.
On a pris la parole en tant qu'Accenture Interactive sur un sujet qui est important. Et d'ailleurs, c'est un des chevaux de bataille de Laurent Habib, là, qui vient de prendre la présidence de la ACC. C'est la fraude en matière de publicité digitale. Nous, on offre. On peut fixer à peu près 17% le montant de fraude moyen perpétré par des robots aujourd'hui. Est-ce qu'on vraiment on adresse cette problématique, en tout cas en France? Je ne crois pas. Donc ce n'est pas réduire de la pub, mais si on prend simplement ce chiffre qui est une moyenne et qui est très différent en fonction des secteurs, et à l'intérieur des secteurs très différent en fonction des annonceurs, et à l'intérieur des annonceurs très différent en fonction des canaux, que ce soit mobile ou web et autres, on n'arrête pas la pub, mais prendre les bonnes mesures te permet d'économiser en moyenne 17% de ton budget d'investissement média. C'est considérable. C'est absolument considérable. Et là, on réduit rien. Parce que jamais un robot n'a souscrit une assurance. Tu parlais tout à l'heure chez AXA, ouais, ou pris l'avion ou acheté une voiture.
Bien sûr.
Ensuite, il y a des moyens d'être plus performants. Est-ce que ça monte à 17%? Ça va être aussi assez variable. Mais lorsqu'on prend un budget et que d'un côté, on en économise 15% et de l'autre, on le rend 15% plus performant, ben, ce sont des mauvaises additions. Mais grosso modo, on a dégagé 30%. Mmh. En tout cas, on a dégagé 15%, créé plus d'efficacité avec ce qu'on avait, ce qui permet soit de leur investir en pub pour en faire plus, et donc pour créer plus de chiffre d'affaires, soit de faire une économie, un matelas pour réinvestir ailleurs. Mais donc l'idée, c'est d'être plus performant aujourd'hui.
Et alors, tu parlais tout à l'heure de la transformation digitale d'Accenture, et ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant aussi. Tu peux en parler, ou tu connais suffisamment le sujet ou pas ? De parler de comment, enfin, cet argent, comment il a été investi, comment il s'y est pris, parce que typiquement le discours d'Adobe, quand il parle de transformation digitale en disant nous on aide les boîtes à se faire leur transformation digitale, bah, il dit bah, nous on est le meilleur exemple parce que nous on s'est transformé en fait. Et je trouve ça hyper intéressant que typiquement Accenture puisse expliquer comment eux-mêmes se sont transformés pour accompagner leurs clients au final.
Mais nous, donc il y a tout, on a toute une partie de l'investissement que j'évoquais tout à l'heure, à peu près à hauteur donc de 3 milliards, en recherche et développement. Et en recherche et développement sur des choses qui nous semblent stratégiques. Ouais. Alors, cette transformation, on appelle ça « the rotation to the new », donc la rotation vers le « new » et le « new business » par opposition à un business qui serait moins « new ». Donc, chez Accenture, c'est incarné par un acronyme qui s'appelait, qui était IMAX, donc Interactive Mobility Analytics Cloud et Cybersécurité. Donc ça, ce sont 5 sujets sur lesquels on a beaucoup investi, qui ont été complétés maintenant par un investissement fort sur l'immersive reality, le blockchain et l'intelligence artificielle. Donc là, on a des labs, des chercheurs qui travaillent dans le monde pour que nous soyons les meilleurs sur ces sujets-là et que donc on puisse amener à nos clients des solutions, mais tangibles,
concrètes,
en matière d'intelligence artificielle et ce que ça veut dire sur les sites de production, ce que ça veut dire dans la relation client, ce que ça veut dire dans l'expérience des employés, par exemple, et que sais-je en termes de sujets. Le blockchain, ça a commencé dans le domaine financial services, mais aujourd'hui, on pourrait imaginer, et d'ailleurs, on ne peut pas l'imaginer parce qu'on peut le lire même, qu'il y a des applications pour certifier un produit bio, pour certifier un achat média, pour être certain que ce n'est pas, justement, on parlait de fraude tout à l'heure, que ce ne soit pas, forcément des robots qui viennent frauder, mais un réel humain. Donc il y a plein de possibilités pour révolutionner ça. Donc on investit énormément là-dessus, on a des labs, on a un lab à Sofia Antipolis, notamment, qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle appliquée au commerce.
D'accord.
Mais on investit dans beaucoup de sujets. On a un deuxième pôle d'investissement qui est extrêmement important, qui est la formation de nos employés. Il y a 400 000 employés, tu me demandais tout à l'heure ce qui faisait la différence. On a 400 000 employés chez Accenture et on ne peut pas prétendre être ce que l'on est sans avoir ces 400 000 personnes qui sont formées et reformées aux dernières technologies. Et la boîte, pour ça, est formidable, parce que c'est tous les jours où on peut apprendre des choses par une formation, par une intervention. C'est assez étonnant. Et c'est vrai à tous les grades de l'entreprise. Les deux premiers jours d'arrivée chez Accenture, c'est déjà 2 jours de formation. C'est assez surprenant, assez incroyable. Mais c'est vrai pour tous les grades et pour toutes les fonctions et pour toutes les géographies.
Et c'est combien de personnes le digital, enfin la partie interactive?
Nous, on est 12 000, Accenture Interactive, c'est 12 000.
Et c'est appelé à disparaître ou à disparaître dans le sens que les 400 000 finalement vont forcément intégrer du digital dans leur réflexion?
Ouais, alors on fait une rotation. Donc à un moment, on a atteint environ 50% de notre rotation, c'est-à-dire 50% du business que l'on fait global est totalement digital. Parce que quand on aura accompli notre rotation, on pourra dire que tout est digital, mais ce que je disais tout à l'heure, on parle du new, et puis maintenant, on a le new, sans être caricatural, mais effectivement, l'intelligence artificielle, par exemple, reste dans quelque chose qui est beaucoup en recherche, on va dire en recherche fondamentale, qui commence à passer en recherche appliquée, donc qui concerne plus de personnes dans l'entreprise. Et puis si un jour c'est devenu une technologie qui est totalement lambda, elle sera probablement pratiquée par une base plus grande. Mais en tout cas, Accenture Digital et Accenture Interactive et les autres entités ont pour mission, et puis Accenture, toute la partie recherche, fonctionne vraiment comme un lab. C'est-à-dire il y a des premières expérimentations et puis ça descend dans le corps de l'entreprise.
Ce podcast s'appelle VLAN. Donc, à qui ou à quoi tu aimerais claquer la porte aujourd'hui ?
Aux pessimistes. Souvent, on parle de notre sujet, de la transformation digitale, qui est vue comme une espèce de... ou une marche forcée, ou un fléau. On l'a vu en politique. À un moment, rien n'était possible en France. Et en fait, au-delà du clivage droite-gauche, on s'est retrouvé devant un clivage Jean fermé, Jean ouvert. Moi, j'ai envie de fermer la porte.
D'accord.
À des gens fermés sur l'évolution de l'entreprise. On vit un moment qui est incroyable, avec plein d'opportunités. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, c'est très rapide, mais c'est en même temps ultra excitant. Donc, cette transformation, elle est juste top, elle est super énergisante. Et puis, à nous de la faire, quoi.
Cool. Merci beaucoup.
Là, je t'en prie.
Merci d'avoir écouté VLAN, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.